Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, deuxième émission consacrée à la Chine ailleurs. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Anne Kerlan. Elle a écrit une très belle biographie de Lin Chao, combattante de la liberté, qui, chez Fayard, a obtenu le prix de la biographie Le Point. Mais elle est venue, elle va nous le raconter par, au fond, hasard et par raccroc à l'histoire de cette incroyable poétesse qui a écrit avec son sang le désespoir que lui inspirait l'histoire de la Chine maoïste. Bonsoir Anne Kerlan.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous êtes sinologue. François Bougon ne voulait pas qu'on dise qu'il était sinologue. Vous acceptez de l'être?
J'ai mis du temps à l'accepter, mais je crois que je peux dire que je suis sinologue.
Pourquoi vous avez du mal avec cette...
On a l'impression, quand on dit sinologue, on est un peu une espèce à part, qu'on est déjà un peu mis dans un zoo, alors que d'abord et avant tout, moi je me considère comme une historienne travaillant sur la Chine, et c'est vrai que j'ai envie de mettre en avant mon approche qui est une approche qui est vraiment fondée dans ce monde-là, d'Europe, avec ses méthodes d'approche et de lecture du monde.
C'est très exactement d'ailleurs ce qui nous réunit, cette question autour de la Chine qui n'est pas nécessairement à penser comme le grand ailleurs que l'Occident se construirait, mais au fond dans une communauté de savoir. Vous êtes historienne des images. Et c'est par les images, par la peinture chinoise du XVIIIe siècle que vous avez commencé à appréhender cette spécialité, Anne Kerlan.
Oui, tout à fait. L'appréhension, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à apprendre le chinois de façon au départ complètement en amateur, par curiosité, et pas du tout à l'époque avec l'intention d'en faire mon métier, je me suis demandé par quelle porte rentrer dans ce monde. Alors les caractères d'écriture me fascinaient, comme ils fascinent beaucoup de monde, et j'ai beaucoup aimé apprendre à les écrire. Et puis il y avait autre chose qui me fascinait énormément, c'était les peintures de la Chine classique. Et j'ai eu l'impression que si j'arrivais à parler de ces peintures, j'arriverais aussi à expliquer quelque chose de la Chine aux personnes qui étaient autour de moi, l'expliquer à mes amis qui se demandaient pourquoi je faisais du chinois, et puis peut-être un jour à des personnes que je ne connaissais pas mais qui s'intéressaient de loin à la Chine. Donc oui, les images ont été une vraie porte d'entrée et une façon justement de rendre cette Chine, de mon point de vue, un peu plus proche.
J'aurai le plaisir de recevoir Jean-François Bitter demain, et on a le sentiment que les débats autour de la sinologie portent souvent au fond sur la question de l'image et la question de savoir si ça ouvre justement vers une histoire autre, vers l'histoire d'une altérité radicale, ou si au contraire on peut en faire une histoire partagé. Or, il me semble que vous êtes d'abord une historienne de la culture visuelle.
Oui, et pour moi, c'est vrai que il n'est pas question de faire des images chinoises. Alors, j'ai travaillé sur la peinture puis sur le cinéma en termes de culture visuelle. Il n'est pas question de faire de ces images des objets qui seraient intouchables, mais au contraire justement des objets qu'il faut décortiquer, comprendre. On peut bien évidemment reconnaître leurs différences avec nos propres méthodes et notre propre esthétique occidentale. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire et se taire et simplement clamer une forme d'altérité qui rendrait silencieux.
Et puisqu'on parle de cinéma, Anne Kerlan, vous avez consacré à l'épopée des studios Lianhua un très beau livre qui s'appelle Hollywood à Shanghai, 1930-1948. Et là, je dirais que c'est l'histoire sociale d'une communauté, d'une petite centaine de personnes qui veulent réinventé avec une passion admirative pour le cinéma américain, bah justement une voie chinoise vers la production cinématographique. Et on n'est pas du tout dans le rêve de la sinologie d'un ailleurs, mais on est bien dans l'histoire sociale de la production des images.
Tout à fait, et c'est ce qui m'a vraiment intéressée, c'est ce qui m'a fait aller par la suite plutôt travailler sur le cinéma que la peinture, c'est-à-dire que le cinéma est par nature un art qui voyage, un art qui passe d'une culture à l'autre, et en Chine, il est arrivé avec évidemment les frères Lumière, mais aussi Edison, et puis très vite le cinéma américain, comme vous l'avez dit, et l'aventure du cinéma en Chine, particulièrement ses débuts, c'est aussi la rencontre, je dirais, de l'autre côté, c'est-à-dire la rencontre de la Chine avec l'Occident, et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup.
Et ce qui vous a intéressé aussi, c'est cette histoire sociale, non seulement de la production, mais aussi de la diffusion. Par exemple, vous faites l'analyse de tout ce système qui met les diffuseurs, les directeurs de salles au cœur du processus. Et donc, ces studios ont produit une petite centaine de films, c'est ça ?
Oui, un tout petit peu moins, ou alors un peu plus si on met les films d'actualité, les films d'animation en plus des longs métrages de fiction. Et c'est finalement assez peu pour une dizaine d'années. Si on compare à ce que produisaient les majors américaines à l'époque, c'est à peu près la production pour une année d'une major américaine. Pour la Chine de l'époque, c'était déjà beaucoup. Malheureusement, beaucoup de ces films ont disparu. Et pour en revenir à la question des hommes qui ont fait la Lianhua, en effet, c'est aussi mon choix de travailler les images dans leur contexte social. Pour moi, il est important évidemment de comprendre d'où elles viennent, mais aussi où elles vont, qui les regarde, comment elles sont appréciées, comment elles sont parfois consommées, comment elles se transforment à l'intérieur même de la culture chinoise. Et là, pour le cinéma, ce sont non seulement les images des films américains, mais beaucoup de ces films produits par la Lianhua vont donner lieu à des remakes chinois. Plus tard, certaines figures, certains personnages vont être inspirés d'autres personnages du cinéma chinois. Et donc là, on a, je dirais, toute une circulation des images, une circulation sociale des images.
En tant qu'historienne, bon, vous êtes directrice du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine au CNRS, Anne Kerlan. Vous considérez ces productions qui sont à la fois fictionnelles et documentaires, comme des sources pour l'histoire de la Chine des années 30, ou simplement c'est le processus de production qui vous intéresse davantage ?
Mais c'est les deux. C'est ce qui est justement complexe avec de telles sources, c'est qu'elles sont à la fois source et objet d'histoire. Et c'est un petit peu, bon, moi, pour mon travail sur le cinéma, je me suis beaucoup inspirée de ce qui se fait particulièrement en France autour de l'histoire culturelle du cinéma, où justement le cinéma est pris comme un fait social total. Et il y a cette double approche. Et c'est aussi l'aspect compliqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mon travail sur l'Alienroi, je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de perdre de vue les images? Est-ce que je ne travaille pas un peu trop sur la partie avant et puis sur la question de la réception? En vérité, ça m'aide aussi à mieux comprendre, à mieux interpréter les films, à, je pense, leur donner une lecture qui est une lecture à différents niveaux, où on prend en compte aussi bien une démarche artistique, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a aussi des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs qui ont donné beaucoup pour que ces films soient ce qu'ils sont. Et il y a aussi évidemment à comprendre comment ces films ont fonctionné, je dirais, dans la société d'où ils viennent.
Alors, vous avez commencé, on l'a dit, par la peinture du XVIIIe siècle. Vous poursuivez par une histoire sociale des studios à Shanghai dans les années 30. Vous vous intéressez aussi au cinéma documentaire d'aujourd'hui. On va le voir, c'est peut-être par là qu'arrive votre rencontre avec Lin Chao. Est-ce qu'on peut dire, Anne Kerlan, que vous êtes appelé par la Chine d'aujourd'hui ou que c'est la Chine d'aujourd'hui qui change vos manières de travailler en tant qu'historienne sur vos objets chinois?
Ben, en effet, je dirais que la Chine d'aujourd'hui s'est imposée. Même si je ne sais pas si dans la suite de mes recherches je continuerai sur la Chine contemporaine, mais quand j'ai commencé à travailler sur le cinéma par intérêt, je regardais évidemment les films qui sortaient, ceux qui sortaient en salle et puis ceux qui sortaient de façon beaucoup plus confidentielle. Et cela m'a aidé aussi à, encore une fois, à comprendre la Chine d'aujourd'hui qui est une Chine très très complexe. Et moi, je n'ai jamais vécu très longtemps en Chine. J'ai fait des séjours de recherche, mais contrairement à certains de mes collègues, je n'ai pas eu la chance d'y vivre plusieurs années. Et je dirais que j'ai un petit peu voulu compenser en allant voir des films contemporains qui me donnent accès à certaines pensées, à certaines intimités. Et donc oui, quelque chose s'est imposé. Il y a eu des rencontres, des questionnements, des découvertes assez sidérantes, je dois le dire. Parce que quand on est chercheur comme moi et qu'on va dans les bibliothèques de Shanghai pour le cinéma de l'époque républicaine, c'est beaucoup Shanghai, Pékin, Hong Kong. On peut très bien finalement ne pas voir grand-chose de la Chine. On peut en percevoir quelques petites choses quand on a des soucis d'accès aux sources, ce qui arrive même pour la Chine républicaine. Mais bien entendu, beaucoup de ce que le cinéma donne à voir n'est pas immédiatement visible.
Je pense que beaucoup de spectateurs, en tout cas ceux qui l'ont vu, gardent un souvenir frappant, presque halluciné, de Touch of Sin. En fait, c'est peut-être le cinéma de documentaire qui aujourd'hui nous donne des nouvelles de ce que devient la Chine.
Oui, le cinéma documentaire contemporain, en effet, a véritablement endossé ce rôle de témoigner de toutes les façons possibles. Ça peut être du témoignage direct, du témoignage très artistiquement construit, mais en tout cas de témoigner et de fouiller ce vaste pays qu'est la Chine.
Après, avec des difficultés aussi, parce que évidemment, ces cinéastes peuvent être inquiétés.
Ah, et comment ? Certains des cinéastes se sont vus interdits de tournage pendant plusieurs années. D'autres sont blacklistés. Il y a des visites de policiers régulières, par exemple, dans des festivals de films indépendants. Puis alors là, avec Xi Jinping, depuis ces dernières années, il n'y a même plus de festival de cinéma indépendant. C'est devenu très, très compliqué.
Vous avez travaillé notamment sur le cinéma documentaire de Hu Jie, qui est, d'une certaine manière, peut-être aussi une des grandes œuvres aujourd'hui de mise en visibilité de ce qu'est la Chine, de ce qu'elle devient.
En tout cas, c'est vrai que le cinéma documentaire de Hu Jie occupe une place importante dans le milieu des cinéastes que l'on dit indépendants, c'est-à-dire des cinéastes qui ne travaillent pas du tout avec le régime. Et Hu Jie a entrepris depuis maintenant une quinzaine d'années, même plus en fait, depuis les années 90, un travail véritablement de description de la Chine passée et présente, et les deux se rencontrent.
Vous écrivez dans un article de 2016 que le cinéma de Hu Jie est une contre-histoire de la Chine maoïste. En quel sens ?
Bien, Hu Jie va, à partir de 2000, réaliser des films qui racontent l'histoire de victimes de la Chine maoïste. Et il raconte l'histoire de victimes que je dirais presque ordinaires, même si on pourra en discuter à propos de Lin Zhao, elle n'est peut-être pas si ordinaire que ça, mais en tout cas ce ne sont pas des hommes de l'État, ce ne sont pas des artistes très connus, certains étaient professeurs, d'autres simples étudiants. Et cette histoire-là, elle n'existe
par
pas.
Par en bas, en somme, par en bas.
Par en bas et par ce qui est interdit d'être raconté en Chine aujourd'hui. C'est-à-dire que Hu Jie raconte ce que l'historiographie officielle ne veut pas raconter. Et donc, c'est en ce sens que j'entends une contre-histoire. Et puis, dans un second sens, parce que quand on regarde la façon dont Hu Jie fait ses films, on voit bien comment il y a un choix cinématographique de montrer des choses que on ne voit pas là encore ailleurs dans le cinéma officiel ou qu'on ne voit pas dans les récits officiels en termes d'image. La façon dont il va filmer là encore, ce n'est pas le peuple, ce sont des gens dans le peuple, mais ce n'est pas la masse, ce sont des individus et il les filme avec ce que leur corps porte de souffrance, de cicatrices du passé, et il les filme dans ce qu'ils sont aujourd'hui, dans cette Chine contemporaine, et c'est aussi une façon de mettre finalement ce passé en résonance dans le présent.
Et en cela, c'est vraiment une contre-histoire. Alors vous, Anne Kerlan, donc historienne des images, historienne davantage que si passant du 18e siècle au studio de Shanghai dans les années 30, et puis intéressé, happé par la Chine contemporaine, dont d'une certaine manière le cinéma documentaire aujourd'hui donne des nouvelles. Un jour, vous voyez justement un film de Hu Jie sur Lin Zhao. Et le livre que vous consacrez à Lin Zhao, paru en 2018 chez Fayard, dont on va parler maintenant. Il est dans l'effet de souffle de ce film.
Oui, la rencontre, je peux parler d'une rencontre, oui, avec Lin Zhao, lorsque j'ai vu le film de Hu Jie. Je l'ai vu à Paris, ce qui est en soi assez extraordinaire, dans un endroit assez confidentiel.
Vous le racontez d'ailleurs.
Oui, je le raconte, mais j'ai tout de suite été sidérée par à la fois la figure de Lin Zhao, qui est une très belle jeune fille, très belle jeune femme, par les textes, puisque Hu Jie dans son film lit les textes qu'elle a écrits, et il y a un souffle dans le film qui en effet m'a porté. En fait, à peine j'avais vu le film que je rencontrais Hu Jie et que je lui disais, mais c'est une histoire que j'aimerais beaucoup raconter moi en France pour les Français. Et Hu Jie m'a répondu, mais il faut la raconter parce que c'est une histoire universelle.
Mais vous lui dites aussi, mais je ne la raconterai pas comme vous, parce que effectivement, ce souffle, le film s'appelle À la recherche de l'âme, hein, de Lin Zhao, il anime votre livre, mais c'est un livre d'historienne.
Et c'était pour moi, il y a eu une deuxième étape assez compliquée, qui était comment écrire l'histoire de Lin Zhao en me dissociant du film, sachant que ça avait vraiment été
un choc esthétique et moral.
Et puis le film apporte énormément d'informations en termes. Enfin, c'est un film qui est très bien documenté. Et toute ma démarche a été de d'écrire avec le film à mes côtés, mais sans jamais faire la même chose que le film. Et j'ai vraiment voulu en faire un travail d'historienne, avec cette volonté aussi que ce soit un travail justement pas simplement pour des collègues spécialistes de la Chine, mais pour toute personne, historienne ou pas, qui s'intéresse à une histoire humaine du XXe siècle, qui est tragique, mais qui a aussi une grande force.
Une grande force et une grande valeur universelle. Alors justement, cette scène inaugurale de cette vision du film, elle est disposée au début de votre livre. Elle l'encourage, en somme, et elle nous encourage aussi à aller à la rencontre de cette très jeune femme au visage d'ange qui orne la couverture de votre beau livre. Alors présentons-la, Anne Kerlan, qui est Lin Zhao.
Alors Lin Zhao, c'est un nom de plume pour une jeune fille qui s'appelait Peng Lin Zhao, qui est née en 1931 ou 1932, et jeune adolescente, rejoint la révolution maoïste, la révolution communiste qui s'installe en Chine en 1949, allant contre l'avis de ses parents. Elle est issue d'une famille de bourgeois éduqués. Elle est très talentueuse. Elle écrit très bien depuis la toute jeunesse.
Son premier poème, elle a 14 ans. Elle appelle l'obscurité à elle.
Voilà, elle appelle l'obscurité à elle parce que à 14 ans, elle vit dans une Chine qui est une Chine, la Chine du direct après-guerre, une Chine exsangue, une Chine corrompue, une Chine qui du point de vue de cette jeunesse, n'a aucun avenir et qu'il faut voir partir, qu'il faut voir disparaître à tout prix.
Donc parce qu'on est quand même dans un milieu relativement privilégié, bourgeois, parce que Lin Zhao a bien des talents, sa jeunesse est documentée, c'est-à-dire qu'on a des textes, des témoignages, on peut suivre et on la suit avec vous au fur et à mesure de ces premiers chapitres. L'histoire d'abord d'une jeune fille, on dirait dans une culture chrétienne, qu'elle aura aussi, qu'elle a le don des larmes, elle pleure tout le temps.
Oui, sa sœur dit que Lin Zhao pleurait pour un oui ou pour un non. Lin Zhao est visiblement une jeune fille très émotive. C'est une poète. C'est une poète qui s'émeut à l'arrivée du printemps. C'est une poète qui aime écouter de la musique, qui aime aussi les simples plaisirs de la nourriture. Plus tard, ses amis diront qu'elle aimait bien boire aussi, s'enivrer, comme les poètes, beaucoup de poètes chinois aiment l'ivresse du vin. Elle est à fleur de peau. On la sent très vite à fleur de peau. Ce n'est pas étonnant non plus. Elle a grandi. Voilà, elle est née en 1931. À partir de 1937, son pays est en guerre. Elle va vivre sur les routes de l'exil pendant la guerre. Elle a une mère qui est un modèle de femme, une vraie combattante, elle aussi, une féministe qui va résister pendant la guerre et juste après-guerre va continuer à lutter pour le droit des femmes. Et en Chine, ce n'est pas rien. Donc, c'est une jeune fille emportée par beaucoup de passion. D'une certaine façon, le communisme, à un moment donné, devient sa passion.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux bustes éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin. A des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on a un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons petites et toutes blanches. Mi des juin, 17 ans.
France Culture. Matière à penser, Patrick Boucheron.
En compagnie de l'historienne Anne Kerlan, directrice du Centre d'études de la Chine moderne et contemporaine, mais qui est l'auteur d'une biographie universelle de Lin Zhao, donc qui n'a pas voulu nous faire entendre de la musique chinoise, mais nous faire entendre Léo Ferré qui chante « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ».
Bah oui, c'était... On parlait d'adolescence et c'est un poème auquel j'ai beaucoup pensé. C'est un poème, une chanson que j'aime beaucoup et j'y ai beaucoup pensé en écrivant cette histoire de Lin Zhao, parce que j'ai parfois eu le sentiment que j'écrivais tout simplement l'histoire d'une adolescente rebelle dont la rébellion l'emmenait évidemment très loin. Et aussi parce que, comme on le disait, c'est une poétesse et la poésie a occupé beaucoup de place pour moi pendant l'écriture de ce livre. Ça m'a beaucoup aidée.
Oui, parce que elle est l'auteur de toute une série de textes, et notamment des textes dramatiques, de ses écrits de prison que vous citez et traduisez longuement et qui sont magnifiques et poignants et où l'on voit justement que ses larmes poétiques deviennent politique parce que cette colère ou cet entrain ou cet allant, il va être justement happé puis fracassé par l'histoire. Donc on suit Lin Zhao justement sur dans les années au début des années 50 dans la réforme agraire qui est la grande affaire évidemment de la Chine maoïste et là elle y va de bon cœur.
Ah, elle y va de bon cœur. Là, elle veut prouver qu'elle est une fervente communiste et s'il faut tuer, elle tuera. Elle fait partie de ces jeunes gens qui vont aller faire appliquer la réforme agraire dans les campagnes et on a des lettres d'elle.
Assez effrayantes d'ailleurs.
Assez effrayantes, tout à fait. C'est des lettres où elle dit que elle n'a pas peur de regarder la mort en face, de décider de l'exécution de quelqu'un dont elle a procédé au jugement.
Donc elle est absolument convaincue à ce moment-là de la légitimité de non seulement de la révolution, mais aussi des moyens que cette révolution met en œuvre, et en particulier la destruction de la paysannerie moyenne.
Alors je dirais que c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que cela, c'est-à-dire que elle est convaincue qu'il faut passer à autre chose en Chine. Et elle n'est pas la seule à le penser. Beaucoup des jeunes gens de sa génération le pensaient. Elle est convaincue que le passé était pourri et qu'il faut vraiment bâtir une Chine nouvelle et qu'on ne peut pas bâtir sans faire un peu de casse. Et puis par ailleurs, elle se sent obligée de montrer que elle est dévouée corps et âme au communisme parce que elle est sans cesse testée. N'oublions pas qu'elle vient d'une famille d'origine bourgeoise, si bien qu'elle est quand même considérée avec un petit peu de suspicion par les cadres communistes et qu'il lui faut faire ses preuves. Et donc faire ses preuves, ça veut dire notamment justement aller très loin dans la violence.
Donc vous racontez, Anne Kerland, l'histoire de cette ferveur et l'histoire de cette violence. Mais il y a aussi, puisque c'est une femme et c'est une femme qui écrit, il y a aussi comme le sismographe au fond des failles qui vont commencer à bouger et son âme et ses convictions. Quand est-ce que vous les percevez, ces premiers doutes, et comment sont-ils documentés et est-ce qu'ils sont liés à, je dirais, une histoire générale en fait de la révolution?
Alors, les premiers moments de... Alors, je ne sais pas si on peut parler de doute à ce moment-là, mais de questionnement arrivent en fait très tôt, puisqu'ils arrivent dans des lettres qu'elle écrit à ses amis au moment de la réforme agraire, où elle commence à se plaindre de la façon dont elle est justement incessamment sur la sellette, la façon dont les cadres la questionnent. Mais à ce moment-là, elle en parle de façon personnelle. Elle ne le relie pas à ce qui se passe en Chine. On a malheureusement perdu beaucoup, beaucoup des lettres, donc sur toute la période qui va du début des années 1950 jusqu'en 1956-57, on a très peu de témoignages d'elle, alors que ce sont des moments où justement les intellectuels, les élites cultivées ont subi un certain nombre de mouvements de rectification. Je pense qu'elle en a été plus que témoin, il est fort probable qu'elle-même ait dû les subir.
Déjà victime, oui.
Et donc il est possible que chacun de ces moments ait enfoncé un petit peu plus le coin du doute. Et je dirais que c'est une accumulation effectivement de failles, une accumulation de questionnements qui la concerne elle et qui à un moment, elle se rend compte que ce n'est pas juste elle qui est victime de ces attaques, de ces critiques. Et donc c'est au moment du mouvement des sans-fleurs et de ce qui suit, c'est-à-dire le mouvement de rectification en 1956-1957, que là, de façon très ouverte, elle pose la question d'une dissociation entre ce que demande le Parti communiste et ce que lui demande sa conscience.
Elle pose cette question en 1956-57, lors effectivement du mouvement des sans-fleurs, parce qu'elle entend aussi un poème que vous donnez, qui est un poème célèbre, j'en donne rapidement lecture. Le moment est venu. Le moment est venu, jeunes gens, chantons à gorge déployée. Écrivons nos peines et nos amours sur le papier. Ne souffrons plus en cachette. Ne soyons pas indignés en cachette. Ne nous plaignons pas en cachette. Laissons s'exprimer nos joies et nos peines au grand jour. Qu'importe si la censure et les critiques tombent sur nos têtes comme une pluie drue et soudaine, car les jeunes pousses n'ont jamais eu peur de la lumière du soleil. Mon poème est une torche qui brûle toutes les barrières érigées par les hommes. Rien ne peut l'empêcher de briller, car son feu vient du 4 mai. Ça, c'est l'étincelle. C'est l'amorce.
C'est l'amorce, c'est tout à fait. On est en mai 1957, on est à l'université de Pékin, la plus prestigieuse université de Chine, et ce poème est affiché sur le mur de l'univers, un des murs de l'université.
Donc c'était un Dazibao, et elle va prendre la tête, non, mais enfin en tout cas, elle prend corps avec ce mouvement des étudiants de Beida, c'est ça ?
Elle va, tout à fait, elle va suivre le mouvement. Avec ceci de particulier que elle n'est pas en effet en première ligne. Elle garde une certaine prudence que j'interprète comme due encore une fois à tout ce qu'elle a subi précédemment comme critique. Mais celui qui a écrit ce poème et d'autres des personnes qui vont écrire des textes qui sont des textes à la fois d'appel à au questionnement du régime communiste ou d'appel au changement.
Elle est d'ailleurs liée même peut-être sentimentalement à eux.
Voilà, tout à fait ce que j'allais dire, Patrick Bouchon, c'est qu'elle est il y a quelque chose d'amical voire d'amoureux dans les relations avec ceux qui sont à l'avant du mouvement à Beita. Et donc, ce qui véritablement va la faire basculer, c'est le moment où ces amis-là sont critiqués. Et elle ne supportera pas la séance de critique qui a lieu. Et elle va prendre la voix, prendre parole, en plein milieu de l'Assemblée. Il faut quand même imaginer le courage que ça représentait. D'oser dire, en plein milieu d'une séance de critique, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?
Donc là, elle a...
On est en 1957, donc elle a...
Elle a 26 ans et elle va donc prendre fait et cause pour le mouvement des étudiants de Beida et donc être accusée d'être droitière.
Bien entendu.
Et ça, c'est évidemment une accusation lourde parce que la rectification tombe sur sa tête et cette pluie de rue dont parle le poème, eh bien, sera beaucoup plus meurtrière que ce que cette jeunesse exaltée imaginait.
Tout à fait. Et ce qui est encore dans son cas, ce qui va aggraver les choses, c'est que elle va refuser de rentrer dans le rang. C'est-à-dire que beaucoup des intellectuels qui ont subi cette critique et qui ont été étiquetés droitiers, on leur a tenu le discours suivant. On leur a dit « confessez-vous, avouez vos fautes, reconnaissez-le, écrivez votre autocritique et après, comme ils le pensaient, tout ira mieux ». Et Lin Zhao a dit « mais je n'ai rien à me reprocher, j'ai dit ce que j'avais à dire, je le pense, et je n'ai pas du tout l'intention de me renier ». Et alors là, elle prenait un risque énorme, et elle se distinguait de la plupart des droitiers.
Et ce d'autant plus qu'on est au moment du grand bond en avant, donc 58-62, dont on sait aujourd'hui que ça produit une catastrophe presque extravagante dans son ampleur, entre 20 et 40 millions de morts. Elle est relativement épargnée physiquement de ces famines atroces, mais ça va évidemment changer sa vie puisqu'elle est emprisonnée en 1960.
Voilà, c'est-à-dire que à partir du moment où elle a pris le chemin de la critique du régime, le voile est tombé et tout ce qu'elle voit dans le pays, preuve que si on voulait regarder, on pouvait voir des choses, elle le met au compte d'un régime qu'elle qualifie de régime totalitaire. Et donc, ces textes de dénonciation qu'elle va écrire vont la mener en effet en prison.
On peut lire aussi votre biographie de Lin Zhao, Anne Kerlan, comme une histoire générale, en arrière-fond, de la révolution maoïste. En tant qu'historienne, quel est l'état de l'historiographie de ce grand bond en avant? Parce que d'une certaine manière, moi j'ai beau lire et relire en tant que, voilà, amateur, je suis évidemment pas spécialiste de la question. Mais il y a quelque chose qui échappe encore à ma compréhension, comment en si peu de temps, on peut produire une catastrophe humaine aussi considérable.
Le problème, effectivement, pour aujourd'hui, pour les historiens d'aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce qui se passe en Russie, les archives ne sont pas ouvertes, les archives de l'État ne sont pas ouvertes. On peut avoir accès à des archives au niveau des provinces, mais pour comprendre, en effet, d'une façon un petit peu générale, les mécanismes qui ont amener à cette famine, il va falloir encore attendre. Et l'autre problème, c'est évidemment la disparition d'un nombre important à la fois de témoins et de documents, qui fait que on en est voué. Ça est le cas de ce journaliste Yang Jinchen, à écrire des enquêtes en allant sur place, en posant des questions aux survivants et en essayant de rassembler des données qui peuvent être des données chiffrées, mais qui sont nécessairement encore imparfaites. Donc oui, il est très très difficile aujourd'hui d'établir, je dirais, un tableau d'ensemble. Malgré tout, on va de plus en plus vers une interprétation qui est, en tout cas ici en France et dans le monde occidental, parce qu'en Chine, les débats sont toujours vifs et malheureusement très orienté sur le fait que la famine du grand bond en avant est véritablement due, d'une part, à une série de décisions politiques. Vous parliez d'extravagance, c'est effectivement des décisions politiques absolument folles, et par ailleurs à un déni du pouvoir qui avait beau recevoir des rapports, n'en tirait aucune conséquence.
Jusqu'au moment où Mao reçoit ce rapport si terrible qu'il décide de les détruire parce que voilà, il donne la mesure du désastre annoncé. Alors vous racontez tout ça, Anne Kerlan, mais vous racontez aussi de 1960 à la mort de Lin Zhao. En 1968, ben, nous sommes à ce moment-là au plus près de ces conditions de détention. Ce sont des chapitres terribles, poignants, bouleversants, aussi parce qu'on lit. Et on lit de plus en plus Lin Zhao parce qu'elle écrit de plus en plus. Et elle écrit littéralement avec son sang.
Oui, et c'est ça qui est incroyable avec Lin Zhao, c'est que c'est sur les années de prison où on a le plus de textes d'elle. Elle n'a pas cessé d'écrire en prison, elle a fait véritablement de l'écriture un acte de combat, un acte de résistance.
Et là encore, elle engage le corps.
Elle engage complètement le corps. En prison, en Chine, l'habitude était de demander aux prisonniers d'écrire leur autocritique. Bon, donc elle pouvait avoir à disposition du papier et de l'encre, mais bien au-delà de ce qu'on lui donnait, elle continue d'écrire et elle va jusqu'à se percer les veines avec des épingles, avec des bâtons de bambou pour pouvoir continuer à écrire quand elle n'a plus rien d'autre. Et il y a une véritable mystique de l'écriture qui se développe, avec ceci d'assez construit, puisqu'elle, beaucoup de textes qu'elle va écrire avec son sang, dès qu'elle aura la possibilité, elle les réécrira à l'encre, tout en les intitulant lettres de sang, textes de sang.
Oui, avec une mystique du sang qui doit aussi sans doute s'alimenter de sa culture chrétienne, mais qui la dépasse de beaucoup, et il faut en prendre la mesure aussi, parce que vous dites que c'est l'équivalent de 380 pages, en fait, qu'elle écrit ainsi.
Et ce dont je parle, ce sont les textes que l'on a pu retrouver. Les 380 pages, c'est petit, c'est difficile de dire en proportion, mais ce n'est qu'une partie de ce qu'elle a pu écrire. C'est immense.
C'est à ce moment-là qu'elle se dit combattante de la liberté, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est toujours au fond dans un dialogue avec ses bourreaux, ses tortionnaires, avec sa jeunesse aussi, avec les croyances politiques de sa jeunesse fervente, jusqu'au moment où en 67, la nuit du Nouvel An chinois, elle écrit « Depuis plusieurs années, moi, combattante de la liberté, j'ai engagé un dialogue politique exténuant avec les gens du parti. » Elle est toujours dans ce dialogue fictif. Mais aujourd'hui, 9 février 1967, j'annonce cesser définitivement, je ne veux plus continuer de parler politique avec ces fous qui ne connaissent rien à la vie et n'ont aucune morale. Ça veut dire que jusqu'au bout, d'une certaine manière, elle a tenu sa croyance politique.
Jusqu'au bout, elle a voulu être une prisonnière politique et non pas juste une contre-révolutionnaire. Et jusqu'au bout, elle a pensé qu'il était possible d'argumenter au niveau politique. Et elle avait une immense culture politique qui lui venait de ses parents. Elle connaissait très bien, entre autres, l'histoire occidentale. Et jusqu'au bout, elle a cru, et c'est là la profondeur de son humanisme, en vérité, elle a cru que, d'une certaine façon, l'humanisme pouvait gagner.
Nous avons été bien patients avec vous, écrit-elle à la fin de cette incroyable lettre à ceux qui ne la liront évidemment pas, mais nous la lisons grâce à vous, Anne Kerlan. L'histoire se termine évidemment par son exécution et par la scène où on va amener à sa mère la nouvelle et aussi la demande de payer la balle qui a tué sa fille. Un demi-yuan,
oui. La pratique voulait que, puisqu'il s'agissait d'un sujet qui pesait sur la société, qui n'avait aucune utilité, il fallait rembourser la balle qu'il avait exécutée. Et évidemment, ça a été le moment le plus terrible pour la mère de Lin Zhao que d'apprendre cela de cette façon.
Mais si nous pouvons lire cette histoire sous votre plume, Anne Kerlan, c'est que ces textes n'ont pas été perdus, et c'est que la figure de Lin Zhao, d'une certaine manière, a été réhabilitée. Bon, elle l'a été, je dirais, politiquement et juridiquement, et elle est devenue aujourd'hui une figure, alors évidemment, toujours vue avec méfiance par les autorités, mais quand même une figure importante. Quel est l'état de la mémoire de Lin Zhao aujourd'hui ?
Alors, je pense qu'il faut vraiment faire attention de distinguer une réhabilitation juridique qui s'est faite de façon assez massive pour la plupart des droitiers et qui ne disait rien de leur véritable réhabilitation sociale. Lin Zhao, aujourd'hui, pose toujours problème à l'État chinois. Quand vous pensez à ce qui s'est passé à la mort du prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, l'État a souhaité qu'il n'ait pas de sépulture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais oui. Il y a eu toute un questionnement. Ses cendres ont été dispersées dans la mer. On est un certain nombre à penser que si ça a été fait ainsi, c'est pour éviter que se reproduise avec Liu Xiaobo ce qui s'est produit avec Lin Zhao et qui pose un vrai problème au régime chinois. C'est-à-dire que la sépulture de Lin Zhao est devenue aujourd'hui un point de ralliement des dissidents en Chine. Donc si vous voulez, elle a été reconnue comme une icône de la dissidence, si bien que du point de vue officiel, elle est véritablement encore toujours du mauvais côté et elle pose toujours problème.
Et votre livre se termine justement par une visite à la tombe de Lin Zhao, qui est très contrôlée, qui est même interdite le jour de l'anniversaire de sa mort. Et vous êtes de ces historiennes-là, Anne Kerlan, qui, au fond, ne réprime pas l'émotion que suscite votre travail, au fond, qui ne choisit pas entre transmettre un savoir et partager une émotion. Et c'est normal pour une historienne de terminer un livre, une biographie sur la tombe de son héroïne ?
Moi, je ne pouvais pas faire autrement. Ça faisait partie de l'histoire de Lin Zhao. À un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas raconter cette histoire sans aller jusqu'au temps présent, parce que Lin Zhao existe encore aujourd'hui, elle est encore vivante sur le net, encore une fois par tous ces dissidents qui se reconnaissent en elle. Et puis, en effet, moi j'ai besoin d'aller là où les figures, les personnes sur lesquelles je travaille ont vécu. Alors j'ai été au cimetière, mais j'étais aussi dans pas mal de rues de Suzhou à la recherche de la maison où elle serait née, où elle aurait grandi enfant. Je suis allée retrouver son ancienne école, donc cette école de missionnaires dont il reste un bâtiment qui est maintenant sur le campus de l'université de Suzhou. J'ai besoin d'une forme d'incarnation. Et puis, ça a été aussi pour moi une façon de me confronter à ce que la Chine est devenue. C'est-à-dire que je ne pouvais pas m'empêcher de penser, en étant à Suzhou, on était en 2016 ou 2017, de me dire qu'est-ce que Lin Zhao aurait pensé si elle était encore vivante aujourd'hui, de ce qu'est devenu cette ville, que ce qu'est devenu ce pays. Elle qui a combattu pour la liberté, elle verrait que d'un certain côté, oui, il y a plus de liberté que dans la Chine qu'elle a connue. Et en même temps, en 2016-2017, on était déjà en train, très 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 précisément, en train de voir se réinstaller un régime de surveillance avec les moyens modernes, les moyens d'aujourd'hui. Il y a 4 caméras de surveillance qui cernent la tombe de Lin Zhao, c'est pas rien. Et c'était une méditation, je dirais, une méditation sur l'héritage de Lin Zhao dans la Chine d'aujourd'hui et sur ce présent de la Chine.
Merci Anne Kerlan.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Anne Kerlan, Joséphine Lampreya, Marie Le Peintre, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, nous poursuivrons notre réflexion sur la Chine, cet ailleurs, point d'interrogation, avec justement quelqu'un qui met le point d'interrogation. C'est Jean-François Bitter. Bonne soirée.